Je sais pas chez vous, mais chez nous, pour dire ce qu'on veut à Noël, on s'envoie des vidéos. Par exemple, mon fils m'a envoyé une vidéo avec des chiots. Ma fille, un concert de sa chanteuse préférée. Mais pour ça, il en faut des gigas. Surtout si je veux envoyer un documentaire sur les Bahamas à mon mari.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez de 50 gigas d'internet mobile pour seulement 10 euros par mois pendant un an pour les clients box, puis 25 euros par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription à forfait Power 50 gigas. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
Bonsoir, il mise énormément sur cette réforme fiscale qui va donc devenir réalité, la première grande réforme depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche. Donald Trump, bien sûr, Donald Trump qui voit clairement un cadeau de Noël fait aux Américains, alors que bon, beaucoup quand même voient un cadeau de Noël plutôt fait aux riches. Reste que le pari est osé, hein. De quelle manière cette réforme va stimuler la croissance plus qu'elle ne creuse le déficit? Et ces baisses d'impôts, est-ce qu'elles vont renforcer la compétitivité américaine au détriment des Européens? On va le voir. Alors justement, ces baisses d'impôts, cette réforme fiscale voulue par Trump, justement, est-ce que c'est un choc mondial? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, c'est l'événement de ce mercredi soir. Adoption définitive par le Congrès juste avant 19h, heure de Paris, justement, de cette réforme fiscale. Enfin, diront certains, on verra exactement ce qu'il y a dedans et quelles en sont les conséquences. En tout cas, Donald Trump, qui prendra la parole ce soir, parlait d'une victoire historique pour les Américains en petit comité, alors qu'il va réunir ses partisans. Il est jovial, il est radieux ce soir, évidemment, il jubile le président américain. Alors, on va en parler, bien sûr, avec celle qui connaît très très bien la politique américaine. Elle dirige le centre États-Unis de l'IFRI, Laurence Nardon, qui est avec nous ici en studio à Paris. Sébastien Turban, qui est économiste chez COE, Rexecode et Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. Benoît Grossman, directeur de Idinvest Partners, un fonds d'investissement. Et puis on va retrouver dans une poignée de secondes Grigory Volokhin, donc depuis New York, hein, depuis Mescat Financial Services, qu'il préside justement. Tiens, alors, des baisses d'impôts, hein, qu'on estime quand même à, allez, je vais arrondir, 1500 milliards de dollars sur 10 ans, 0,7% du PIB. La plus grosse partie, plus de 1000 milliards donc sur 10 ans pour les particuliers qui sont imposés sur le revenu. Le reste, 500-600 milliards pour les entreprises, pour les auto-entrepreneurs. Le taux de l'IS d'ailleurs aux États-Unis qui va passer dès l'an prochain de 35% à 21%, c'est-à-dire sous la moyenne des pays de l'OCDE. Grégory Volokhin, donc on le disait juste avant 19h hors de Paris, le Congrès a voté définitivement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est important, aussi important que Reagan 1986, c'est quand même, j'ai l'impression, un mouvement d'une ampleur supérieure à ce qu'on attendait. C'est un peu la surprise du chef, non, de cette réforme fiscale.
Mais écoutez, je dirais, c'est vraiment une réforme fiscale à deux vitesses. Autant c'est important pour les compagnies, pour les entreprises américaines, pour le capital, la taxation du capital, pour Wall Street. Autant pour l'Américain moyen, ça n'aura pratiquement pas d'effet. Il faut vraiment dire que pour un revenu moyen, la baisse d'impôt temporaire sera entre 500 et 900 dollars par année et elle disparaîtra d'ici 2017. Donc, il ne faut pas s'étonner quand vous faites un sondage de voir que seulement 25% des Américains sont partisans de cette réforme fiscale. Par contre, le cadeau pour les entreprises, là, il est net et les entreprises vont évidemment non seulement économiser des impôts, elles vont pouvoir aussi déprécier, c'est-à-dire très très vite enlever les dépenses qu'elles font en capital et ça va réduire aussi leurs impôts. Donc, je dirais deux vitesses. Une vitesse turbo qui favorise les entreprises américaines. Est-ce que les entreprises, c'est la grande question, vont créer des emplois? Ça serait étonnant parce que qu'est-ce qu'on sait que font les entreprises? Elles essayent d'être le plus rentable possible. Elles vont sûrement racheter beaucoup d'actions. Elles vont peut-être un peu augmenter leurs dividendes. Et puis pour l'Américain moyen, ou bien ça sera une petite baisse d'impôts, ou bien pour certains, dans des États comme la Californie ou New York, ça sera une augmentation nette d'impôts.
Ouais, on va vous retrouver, Grégory. Oui, Laurence Nardon, c'est une victoire pour Donald Trump. Il mise gros, il joue gros sur cette réforme fiscale. même si, évidemment, elle va se faire à deux vitesses, comme le disait tout de suite Grégory depuis New York.
D'un point de vue politique, il va jouer ça, il va présenter ça comme une immense victoire, puisque enfin, il a un texte législatif majeur, très important, qui est voté, qui est accepté par le Congrès.
Le premier.
On sait qu'il n'avait pas réussi pour Obamacare.
Non.
Mais cette réforme fiscale, d'un point de vue politique, pour ce qui concerne Donald Trump, à mon avis, elle illustre magnifiquement le double positionnement politique de Trump. C'est-à-dire qu'il a fait campagne en 2016, pendant toute sa campagne, sur l'idée qu'il allait faire une réforme fiscale pour aider les classes moyennes. Et puis, une fois au pouvoir, il a nommé comme conseiller sur les questions économiques, financières, fiscales autour de lui à la Maison-Blanche, plutôt des gens qui venaient de Wall Street et qui ont dessiné un projet, c'est celui qui vient d'être voté, qui avantage un petit peu les classes moyennes. Il y a certaines mesures qui seront bien mises en avant dans la presse conservatrice, mais surtout qui avantage les très riches et les entreprises. Donc c'est, si vous voulez, ce positionnement populiste et conservateur de Trump, contradictoire, qui illustre cette réforme.
Juste, le Tax Policy Center, qui est un organisme non partisan, nous dit que les ménages de la classe moyenne devraient voir leurs impôts baisser de $900 à peu près en moyenne, tandis que les 1% les plus riches bénéficieront d'un allègement moyen de $51,000. Quand même, sur l'enveloppe, juste, et puis je donne la parole aux autres, 1 500 milliards de dollars sur 10 ans, je disais, c'est un mouvement d'une ampleur sans précédent. Je discutais avec un économiste d'une agence de notation tout à l'heure à la mi-journée qui me disait, oui, on n'attendait pas ça. Et d'ailleurs, cette réforme voulue par Trump, dit-on, elle a été rédigée dans le secret le plus absolu par 6 très hauts responsables du camp, ce qu'on appelle les Big Six, qui ont travaillé seuls dans leur coin. Sans écouter les républicains, sans écouter les démocrates. Je disais, c'est là un peu la surprise du chef.
Les 1 500 $ de baisse d'impôts, reste à voir comment ils seront compensés par d'éventuels... Pardon, milliards. reste à savoir comment ils seront compensés par d'éventuelles relances économiques, etc. Elle a été préparée dans le secret et très rapidement, parce qu'il fallait que politiquement elle soit adoptée. C'était important pour des raisons politiciennes, si vous voulez. Mais à mon avis, elle est quand même une réforme extrêmement conforme aux idéaux fiscaux des républicains conservateurs, puisqu'ils n'aiment pas les impôts fédéraux.
Emmanuel Le Chypre.
C'est vrai qu'on a quelque chose qui est de facture assez, assez classique hein, sur le plan philosophique. Après, moi, en regardant les chiffres, c'est pas aussi spectaculaire que ce qu'avait fait Ronald Reagan au début des années.
Rappelez-nous ce qui s'est passé en 86.
Au début des années. Alors, c'est même avant 86. Hein, c'est quand Reagan arrive en 82, sa stratégie, c'est effectivement. Alors, il baisse les impôts, mais ce qui est compliqué avec Reagan, c'est qu'il a aussi pas mal augmenté les dépenses. Donc, il y a eu une impulsion économique qu'on ne verra pas sans doute cette fois-ci. Vous avez cité les grandes masses. Il y a beaucoup aussi de petites choses qui sont finalement assez conformes avec l'état d'esprit républicain. On a dit qu'il n'avait pas réussi, par exemple, sa réforme sur l'Obamacare. Or là, dans ses dispositions fiscales, il y a une mesure qui fragilise
l'Obamacare,
voilà. Qui est de ne plus rendre obligatoires les amendes pour Américains qui ne souscriraient pas à l'assurance maladie. Et on sait déjà que le problème de l'Obamacare, c'était sa rentabilité qui était due au fait qu'il n'y avait pas assez d'Américains qui souscrivaient au dispositif. Donc là, effectivement, ça va être compliqué. On voit qu'il y a des mesures aussi qui font que finalement, les États démocrates, entre guillemets, les États les plus riches, finalement, vont se retrouver un petit peu pénalisés dans la mesure où il ne sera plus possible, par exemple, de déduire les impôts locaux de l'impôt fédéral. Et donc, dès les États dans lesquels il y avait pas mal de niches fiscales, comme justement la Californie.
En faveur du social, notamment.
Voilà, en faveur du social, du coup, ça va faire... Donc on est quand même sur quelque chose qui est de facture assez républicaine, classique.
juste sur cet aspect-là, c'est très malin, très précis, hein, cette réforme, certains vont dire très fourbe, également le fait qu'elle punisse, entre guillemets, les habitants des États les plus... Et socialiser, je sais pas comment on dit ça, la Californie, New York, le New Jersey, Laurence Nardon.
Socialiser et votant démocrate, surtout. Mais je crois qu'il y a des fiscalistes assez fins qui sont à la manœuvre et dans des objectifs très politiciens, effectivement.
Bon, alors, tiens, Sébastien Turban, vous êtes économiste chez COE Rexecode. Ce plan d'une grande ampleur, est-ce qu'il était vraiment nécessaire alors que l'économie du pays, elle tourne à plein régime? On parle d'une croissance de 3,5%, d'un taux de chômage d'un peu plus de 4%. Est-ce que c'était le bon moment, franchement?
Justement, effectivement, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, l'économie est revenue à son niveau potentiel, c'est-à-dire que toutes les capacités de production sont à peu près exploitées à leur niveau potentiel, et que finalement une relance qui creuse le déficit. Donc, comme vous l'avez dit, le chiffre de 1500 milliards, qui, juste pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, le Joint Committee of Taxation, qui chiffre les mesures fiscales aux États-Unis, dit que si on inclut l'impact sur la croissance, ça réduira de un tiers ce chiffre-là, et donc au final le déficit sera creusé juste de 1000 milliards sur les 10 ans. Et c'est donc cette réforme-là qui creuse le déficit, effectivement, elle nous paraît pas forcément très pertinente dans un contexte où il y a plus de marge de manœuvre sur ces capacités de production, donc où l'écart de production a été rétabli. On voit pas qu'il y a un déficit d'investissement, et on voit aussi que le niveau des profits aux États-Unis, le niveau des profits des entreprises est aussi un niveau assez élevé. Ce qui veut dire, donc, il y a deux choses. Le fait que l'écart de production, que les capacités de production soient déjà exploitées à leur maximum, fait que l'impact sera probablement très fort sur les importations. Donc, ça va augmenter le déficit commercial qui va poser problème à Donald Trump, et ça va avoir un impact sur l'inflation et aussi donc sur la réaction de la politique monétaire. Et la deuxième chose, le fait que les profits soient très élevés aujourd'hui, les profits des entreprises soient à un niveau extrêmement élevé aujourd'hui par rapport à leur moyenne historique, ça veut dire que l'impact auquel on s'attend d'une baisse d'impôts sur les sociétés, qui était le but était de relancer l'investissement aux États-Unis, s'il y avait de l'investissement, des opportunités d'investissement à faire pour les entreprises aux États-Unis, étant donné le niveau de profit aujourd'hui, les investissements auraient été faits. Et donc c'est pas non plus évident qu'il y ait un problème de financement pour les entreprises, mais ce serait plus un problème d'opportunité. Cette réforme-là ne répond pas à ce problème-là.
Pas forcément nécessaire, en tout cas d'un point de vue économique, d'un point de vue politique probablement, et probablement, Grégory oui. Et Laurence pourraient nous le dire. Votre regard, vous, Benoît Grossman, donc à la tête de ce fonds d'investissement, il investe. Hein.
Alors si je regarde un petit peu par le petit bout de la lorgnette du côté de notre métier, qui est d'investir dans des PME non cotées, hein, dans le private equity, on investit dans des sociétés pour les faire grossir. Je crois qu'un des dommages collatéraux de la réforme Trump, c'est les fameux 3 000 milliards qui sont stockés par toutes les entreprises américaines à l'étranger, notamment en Europe, qui, je crois, dans le cadre de la réforme fiscale, ont une taxation flat de 10%. Donc, il va y avoir une partie de cet argent qui va être rapatrié aux États-Unis. Et il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'acquisitions qui s'est faites ces dernières années, depuis toujours, de sociétés européennes par des sociétés américaines. C'est fait en utilisant cette trésorerie, parce qu'elle était ce qu'on appelle trappée en Europe. Hein, il y en a à peu près pour 3 000 milliards. Et le fait que cette trésorerie ne sera plus trappée en Europe, à mon avis, ça diminuera forcément l'appétence de sociétés américaines pour acheter des sociétés européennes. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. C'est le premier dommage collatéral que je vois. Après, il y en a peut-être d'autres.
Enfin, on verra, oui, bien sûr. Non.
Il y en a certainement d'autres, mais c'est un des premiers que je vois. Là.
Allez-y, Sébastien Turban, puis on va retourner à New York avec Grégory Volopé.
Je voulais juste revenir sur cette mesure-là, effectivement. Donc, je pense qu'on parle de la taxation des profits qui sont parqués à l'étranger,
voilà, qui
s'élèvent effectivement à 3 000 milliards, enfin, qui ont été chiffrés à 3 000 milliards, mais on a du mal à les chiffrer, effectivement. Il me semble que donc, en gros, la taxation sera de 8% de 15% sur le cash et de 8% sur le reste. Alors, il y a eu des rapports qui ont été faits sur ce genre de mesures. Il y a une mesure équivalente qui a été faite en 2004, où en fait, on s'est rendu compte que cette taxation de ces profits, ce rapatriement des profits, en fait, n'a pas conduit à une relance de l'investissement par les entreprises, mais plutôt à des rachats d'actions. Et en fait, il y a un rapport du Sénat aussi, qui était à l'époque sous la direction démocrate en 2010, il me semble, qui montrait aussi que, en fait, la plupart des profits qui sont parqués à l'étranger sont en fait aux États-Unis en dollars, et donc notamment l'effet qu'on pourrait s'attendre d'une appréciation sur le dollar d'un rapatriement de ces profits-là est pas forcément évident, parce que ces profits sont déjà en fait en dollars et sont déjà aux États-Unis.
Bon, on verra, on va pas trop rentrer dans la dynamique, mais on verra justement en effet de quelle manière les Européens peuvent craindre ou pas cette réforme fiscale. On va retourner aux États-Unis justement. Grégory Volokhin, Janet Yellen, la patronne sortante de la Réserve fédérale, elle estime que la réforme, elle est de nature à stimuler modestement la croissance américaine au cours des prochaines années. Alors, de quelle manière, justement, ça peut stimuler ou pas cette croissance ? L'impact moins que prévu, en effet ?
Mais je dirais, ça va surtout stimuler la croissance, non pas par l'augmentation de la consommation, puisqu'on a bien dit en fait que l'Américain ne va pas voir vraiment un effet très important de cette baisse des impôts, mais plutôt par le fait que les compagnies étant plus rentables, leurs profits vont augmenter. Ces profits, évidemment, vont entrer d'une certaine façon dans l'économie. Et malheureusement, et c'est exactement ce que disaient vos invités, la façon de rentrer de ces profits dans l'économie, ça va pas être de créer des emplois. On n'en a pas besoin. On a pratiquement le plein emploi. Ça ne va pas être d'investir dans des infrastructures. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, c'est la demande finale qui compte. Si vous êtes un chef d'entreprise, c'est pas parce que vous avez plus d'argent que vous allez forcément l'investir. Donc l'effet, ça va être exactement ce que vous disiez, des rachats d'actions, peut-être des augmentations de dividendes. C'est certain que ça booste ou ça fait augmenter un peu la croissance à court terme, et on peut s'attendre à une croissance plus forte l'année prochaine aux États-Unis. Mais je dirais à la fois, c'est une croissance qui n'était pas nécessaire, on l'avait déjà, et deuxièmement, c'est une croissance qui est un peu artificielle parce qu'elle est, comme on dit en anglais, front-loaded, c'est-à-dire que les effets les plus favorables de cette réforme fiscale vont arriver très très rapidement et petit à petit vont disparaître. Les baisses d'impôts pour les particuliers vont disparaître d'ici 2017, et même des tas d'avantages fiscaux pour les compagnies, comme justement la dépréciation, vont disparaître après 5 ans. Donc je dirais, ça me semble pratiquement très électoral. C'est vraiment pour faire plaisir aux Républicains. L'économie va aller très très bien pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être même plus longtemps. Mais c'est un effet, je dirais, un peu artificiel qui arrive à un moment où on n'en avait pas tellement besoin. Et une fois de plus, c'est, je pense, Donald Trump là qui joue le côté politique beaucoup plus que l'intérêt final de la nation.
Juste un point sur ce que disaient Benoît Grossman et Sébastien Turban il y a un instant. Cette taxation avantageuse pour les multinationales qui ont, allez, comme on dit, parqué, hein, on parle de 3000 milliards de dollars de profits à l'étranger. Alors certaines entreprises, certains domaines, hein, les géants du web, la pharmacie, etc. On parle d'une amnistie déguisée ou pas à vos yeux, Grégory Volokhin?
Oh, elle est pas déguisée. Mais la question est relativement simple. Est-ce que ces compagnies vont vraiment rapatrier cet argent pour payer 15% d'impôts dessus ou même 8%, alors que s'ils le rapatrient pas, cet argent peut rester là où il est et peut-être, comme le disaient vos invités, investi dans de la croissance, dans des compagnies très très intéressantes. Donc si cet argent est rapatrié, ça ne va pas vraiment aider l'économie américaine. C'est clair, on l'a vu et vous le répétiez. Ça va faire des rachats d'actions importants pour les compagnies. Ça va peut-être leur permettre d'augmenter leurs dividendes. Et ça s'arrêtera là. Et puis en plus, de nouveau, c'est une amnistie fiscale qui n'est pas éternelle. Donc ils ne rapatrient pas rapidement cet argent, après, ils pourront plus le faire. Donc même là, c'est peut-être, comment dire, un côté politique. Mais l'effet sur l'économie sera, je dirais, pas très très important.
Et Sébastien Turban, c'est Work, c'est Code.
Je voulais juste rebondir sur l'impact effectivement sur la croissance. Il y a quelque chose, en plus du constat que je partage de votre invité
avec Grégory. Ouais.
Il y a la réaction de la politique monétaire qui va être assez fondamentale, étant donné que on est revenu à une politique monétaire qui s'est normalisée aux États-Unis avec des hausses de taux. On a prévu 3 ou 4 hausses de taux l'année prochaine. On est sur une trajectoire à la hausse des taux d'intérêt. Et donc la réaction de la politique monétaire va être fondamentale pour vraiment comprendre l'impact sur la croissance. De la réforme fiscale. Et si on pense que l'inflation va effectivement réagir du fait que l'écart de production a été résorbé aux États-Unis, la politique monétaire réagira plus fortement et donc réduira d'autant plus l'impact sur la croissance.
Emmanuel, le Chypre.
Bah, c'est vrai qu'on se retrouve quand même avec une politique économique qui est finalement assez risquée, parce qu'on voit bien que l'impact sur l'économie aujourd'hui, il est assez faible, puisque cette réforme fiscale vient impacter une économie qui est déjà très mature en termes de croissance. Hein. On l'a vu, vous l'avez dit, quand on regarde la capacité des entreprises américaines à autofinancer aujourd'hui leurs investissements, on se dit qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup de profits supplémentaires. Sur les risques de rapatriement, on s'aperçoit que les taux d'imposition qui avaient été envisagés, finalement, n'ont cessé d'être relevés un petit peu tout au long du processus et que c'est pas si intéressant que ça. Finalement, par rapport à ce qu'avait proposé Bush, qui devait être autour de 5% de taux d'imposition des profits rapatriés. Là, on est quand même à des niveaux qui sont plus élevés. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on va dépenser beaucoup d'argent, qui va creuser les déficits publics, que d'après les estimations du Congrès, l'impulsion qui sera donnée sur la conjoncture par la réforme fiscale ne comble à peu près qu'un tiers du déficit public qui va être généré. Et que donc, on va se retrouver dans une situation où, pour affronter la prochaine récession, vous aurez des déficits publics très importants et où vous aurez des taux d'intérêt qui seront quand même restés très très bas. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est quand va arriver la prochaine récession, finalement, quels seront les outils de politique économique qui seront disponibles pour redonner de l'impulsion à l'activité, sachant que même si on a des hausses de taux, ça va être des hausses de un quart de point ou quelque chose qui va être quand même assez faible, donc on va partir d'assez bas. Et sur la politique budgétaire, on n'était pas du tout dans les mêmes configurations avant d'affronter la récession de 2001 ou celle de 2009.
On est en train de se demander, Laurence Nardon, une réforme, pourquoi faire finalement ?
Mais alors moi je voudrais, alors je ne suis pas économiste, je suis politiste, oui. Mais je voudrais faire une remarque, deux remarques en fait. La première sur cette histoire du rapatriement des profits stockés à l'étranger par des entreprises. Même si ça n'a pas des effets économiques très bons et que ce n'est pas très bon pour nous Européens, je pense quand même, même si c'est Trump en plus qui a lancé cette loi, je pense que ça envoie quand même un bon message au moment où tous les pays, et nous, Européens, au premier chef, sommes en train de lutter contre l'optimisation fiscale des grandes entreprises. Et donc, on essaye de faire ça en Europe, les États-Unis, manifestement, donc, avec cette mesure, essayent d'en faire autant aux États-Unis. Est-ce que ça n'envoie pas un message, alors peut-être pas de santé économique, mais d'esprit citoyen aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique ?
Il y a quand même une Emmanuel autre... et ensuite Benoît Grossman.
Parmi les multiples petites révolutions... culturel qu'il y a dans cette réforme fiscale, il y en a une autre aussi sur la taxation des entreprises, c'est que les entreprises américaines ne seront plus imposées sur leurs profits mondiaux, ce qui était une spécialité locale entre guillemets, et que là les États-Unis finalement rentrent dans une méthodologie qui est plus conforme à ce qui se fait dans le reste du monde, et ça aussi c'est quand même une nouveauté.
Benoît Grossman, Ininvest.
Je crois que les profits stockés à l'étranger, enfin du moins en Europe par les entreprises américaines, c'est pas de l'optimisation fiscale. En tout cas, c'est bon pour nous, parce que l'argent est stocké en Europe, donc c'est plutôt bon pour nous. Et il faut mieux qu'il soit stocké en Europe, dépensé et investi en Europe, que rapatrié aux États-Unis. Donc, d'un point de vue strictement européen, c'était mieux à
part. Oui, je suis d'accord avec ça.
L'optimisation fiscale pour les Américains, ça bénéficie beaucoup aux Européens.
Oui, je suis d'accord. Mais en termes d'esprit citoyen, sur le fait de payer ses impôts là où on est installé,
je suis d'accord.
C'est autre chose.
Sébastien Turban, c'est oui, Laurence, vous prenez la parole juste après.
Oui, non, mais je voulais rebondir sur ce point. Oui, c'est vrai que vous aviez un deuxième point, il me semble.
Mais oui.
je voulais juste rebondir sur cette idée de d'esprit citoyen et aussi parler de cette histoire de la réforme de la structure de l'imposition sur les sociétés qui est prévue dans cette réforme fiscale, qui est qu'on passe d'une imposition de l'ensemble des profits mondiaux des entreprises américaines, mais qui sont taxés quand on les rapatrie. Donc c'est là où il y a ce problème de rapatriement. On passe à une fiscalité qui est plus semblable à ce qui se passe dans les pays de l'OCDE, dans la plupart des pays de l'OCDE, où on va taxer finalement les profits sur le territoire américain. Et ce changement-là est important parce que c'est vrai que c'est ça qui fait qu'il y a des possibilités pour les entreprises, justement, de faire de l'érosion de base fiscale, donc de déplacer, de dire que les profits sont pas faits aux États-Unis, mais sont faits à l'étranger. Et avec cette réforme fiscale, ces profits sont taxés à zéro. Et donc, il y a plus d'incitation il y a encore plus d'incitation à, justement, parquer ces profits-là à l'étranger. Et donc, la deuxième couche de la réforme, c'était de dire, maintenant, il faut qu'on prenne des mesures pour, justement, réduire ces incitations à déplacer ces profits-là. Et, la mesure là, de rapatriement, il y a un certain nombre de mesures qui aussi posent problème, d'ailleurs, aux Européens, qui sont prises par les Américains pour, justement, réduire ces incitations à déplacer les profits artificiellement par les entreprises américaines. Ces mesures-là sont prises. Donc, par exemple, il y a une taxation de profits, des intangibles à l'étranger. Donc, on taxe un petit peu des profits quand même qui sont faits à l'étranger aussi. C'est des choses que les Européens qui font un peu peur aux Européens.
Bien sûr, oui.
Mais cette histoire d'essayer de contrer l'érosion des bases fiscales, c'est effectivement quelque chose qu'on partage en fait. Il y a des discussions qui sont à l'OCDE en ce moment entre les pays européens et tous les pays de l'OCDE pour justement réduire ces mauvaises incitations sur les entreprises. Les Américains ont décidé de faire ça de leur côté dans leur réforme fiscale. C'est quelque chose qu'on aurait peut-être pu aussi faire avec eux, prendre ces mesures-là dans des organisations internationales plutôt qu'ils le passent de leur côté unilatéralement dans leur réforme fiscale.
Alors deuxième point, Laurence Nardon.
Alors l'autre point qui me semblait très important, c'est que donc on dit que l'économie américaine va très bien et que du coup cette réforme sert pas grand chose autrement que à faire des points idéologiques, d'ailleurs contradictoires. Mais néanmoins, moi je suis très frappée par le fait que Trump annonce cette réforme en disant qu'elle va créer de l'emploi, create jobs, job, enfin c'est ce qu'il a dit pendant toute sa campagne et depuis chaque fois qu'il parlait de cette réforme fiscale. Et là, je crois qu'il faut dire qu'il y a une partie de la population américaine qui souffre de chômage et ils ne sont pas dans les statistiques. Vous savez, quand vous êtes plus couvert par le chômage aux États-Unis, le chômage durant assez peu de temps par rapport à ce qui se passe chez nous, vous disparaissez des statistiques. Et là, je voudrais parler effectivement de cette base électorale de Trump, donc cette classe moyenne peu diplômés ou pas diplômés de la Rust Belt, cet endroit dont les usines ont été fermées et sont parties
dans le nord-est des États-Unis.
Voilà, près des Grands Lacs, voilà. La Rust Belt, un endroit où les délocalisations d'entreprises ont été très nombreuses. Bon, ça c'est vérifié, c'est vrai. Et ces gens-là sont aujourd'hui au chômage. D'ailleurs, il y a cette épidémie d'overdose à base d'opioïdes, d'opiacés, on dit en français, excusez-moi, qui fait des ravages dans cette région et dans cette population. Et donc, Trump fait cette réforme pour cette base électorale. Alors après, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais en réalité,
pourront-ils en profiter, voilà.
En termes de discours et de politique, c'est à eux qu'ils s'adressent.
Alors, réponse Grégory Volokhin, puis j'aurai une dernière question ensuite, une autre intervention sur les marchés. Pour répondre à ce que disait Laurence Nardon, puisque vous vivez à New York.
Elle a absolument raison. C'est-à-dire que quand Trump fait quelque chose, c'est pour s'adresser à son électorat. Et son électorat pense, à tort, que cette réforme fiscale va créer des emplois. Et ça semble franchement assez illusoire, puisque les emplois qui ont été perdus, que ça soit dû à la délocalisation, à la transformation de l'économie, ils n'ont pas été perdus pour des raisons fiscales. Donc, je dirais, là, c'est de l'idéologie, Trump s'appuie quand même toujours sur cette base d'électeurs. Mais j'ai entendu dernièrement ces électeurs, justement dans la Rust Belt ou dans d'autres régions vraiment défavorisées, qui commencent à se plaindre, qui commencent plus tellement à y croire. Et je dirais qu'à court terme, ce genre de déclaration, de parole, ça peut aider Trump. Par contre, quand il va y avoir des élections, et elles arrivent en 2018, évidemment, quand il va y avoir les élections à la Chambre des représentants et au Sénat, si les choses n'ont pas vraiment changé, là, la propagande électorale ne suffira pas. Et c'est là qu'on verra que les républicains n'auront pas vraiment eux-mêmes, par leur action, créé des emplois aux États-Unis, et en tout cas pas à cause de cette réforme fiscale.
Novembre 2018, les prochaines élections. En attendant, les marchés, justement, les marchés en grande forme hein, depuis le début de l'année. Grégory Volokhin, comment cette réforme fiscale peut-elle continuer de pousser les marchés jusqu'en haut et jusqu'où maintenant aussi? À quand le pic?
Et en fait, c'est la bonne question parce qu'il y a des tas de cadeaux, il y a des tas de choses inconnues dans cette réforme fiscale qu'on découvre petit à petit. Par exemple, aujourd'hui, FedEx, hein, Federal Express, très grande compagnie, publie ses résultats. Ils disent bon, on attendait $12 de profit par année en 2018, mais dans la réforme fiscale, maintenant, on va pouvoir utiliser certains aménagements qui nous sont offerts. Ça sera plus $12 qu'on aura, ça va être $17. Alors évidemment, ça c'est des manipulations comptables et purement fiscales, mais qui sont très 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 favorables aux entreprises. Donc le marché, oui, je pense qu'il pourrait continuer tout simplement parce que pour le moment, on n'a pas osé chiffrer compagnie par compagnie combien elles vont bénéficier de cette réforme fiscale, alors que les stratégistes ont tous dit oui, ça va être 8%, 10% de hausse sur les profits du S&P 500, ça va être ce genre de figure. Mais ça, c'est ce qu'on appelle top-down. Mais maintenant qu'on va regarder les compagnies les unes après les autres, énormément de compagnies vont avoir des profits qui vont être nettement en hausse grâce à cette réforme fiscale. Donc ça, c'est notoire. Est-ce que tout est dans le marché? On le saura bien plus tard, mais je pense qu'il y a encore quand même de la place pour les indices pour monter sur cette réalité, disons, d'une amélioration des profits.
Avant que vous nous quittiez, Grégory, une question d'Emmanuel Le Chypre pour vous.
Oui, Grégory, je voulais, d'après ce que vous dites, ce que je comprends, c'est qu'en fait, il n'y aura pas forcément d'impact global sur les indices parce que la réforme était largement anticipée, mais par contre, qu'on pourrait avoir des gros arbitrages sur les secteurs et sur les valeurs, non ?
Je dis ça, mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, les stratégistes de Wall Street ont déjà chiffré l'impact en disant ça va être un impact entre 8 et 10% sur les profits des compagnies. Mais les analystes qui analysent une à une les compagnies, puisqu'ils n'avaient pas encore cette loi sous les yeux, n'ont pas encore chiffré cet impact. Ce qui veut dire que ces profits vont être au-dessus de ce qui est attendu compagnie par compagnie. C'était ça que je voulais dire, mais en fait, ce que vous dites est en fait la même chose.
Bon, merci beaucoup Grégory Volokhine. Tous les autres, vous restez là. Grégory Volokhine, donc depuis New York, président de Mescap Financial Services. On va continuer justement cette réforme fiscale de Trump parce que c'est un choc mondial. Quel impact pour nous, les Européens, souvenez-vous, c'était il y a 2 semaines, Pierre Gattaz, Bruno Le Maire qui s'inquiétait d'une guerre fiscale, d'une distorsion de concurrence. On verra exactement ce qu'il en est, à tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, ça a été voté définitivement juste avant 19h, hors de Paris, ce mercredi soir, cette première grosse réforme de Donald Trump, hein, depuis son élection. La réforme fiscale, donc, eh bien, qui va consentir quelques 1500 milliards de dollars, donc, de baisse d'impôts sur 10 ans, beaucoup pour les particuliers. Alors, quel particulier? Ben, on va voir ça dans un instant, parce que tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Et puis également des baisses d'impôts pour les entreprises. Oui, les particuliers. Ben, oui, Trump parlait donc de cadeaux de Noël faits aux Américains. Oui, pas tous les Américains, justement, puisque le pourcentage des plus riches va s'octroyer la plus grosse part du gâteau, tandis que le plus gros contingent, les plus pauvres, entre guillemets, ne vont toucher que quelques miettes. Oui, ce qui a fait réagir l'opposition démocrate. Charles Schumer, il est sénateur démocrate de l'État de New York, et Ron Wyden, sénateur démocrate de l'Oregon.
Il n'y a aucune raison pour que les familles paient davantage d'impôts lorsque toutes les grandes entreprises en paient moins. Comment les républicains peuvent-ils défendre ça? Les républicains garantissent une instabilité majeure dans la politique fiscale des États-Unis et pour de très nombreuses années.
Ouais, Laurence Dardon, qui dirige le Centre États-Unis de l'IFRI, juste parce qu'on en parlait juste avant la pause avec Grégory Volokhine, qui nous disait, attention, il y a des élections donc en novembre 2018 et la base, j'allais dire, électorale de Donald Trump pourrait se réveiller si notamment elle ne voit pas des emplois créés. Rien que sur ces inégalités fiscales, justement, sur le fait que l'oligarchie peut se renforcer, l'opinion à un moment, elle va lâcher Donald Trump ou pas?
Ben, c'est une excellente question. Jusqu'à présent, la base donc populiste qui a élu Trump lui reste fidèle. Enfin, son taux de popularité, son taux d'approbation, pardon, est aujourd'hui à 32-35%. Il baisse doucement, mais on a l'impression qu'il y a une sorte d'étiage là comme ça, et que donc ces gens-là, ces électeurs-là, lui font confiance malgré tout. Et pour eux, il y a des baisses d'impôts qui sont prévues et qui vont être bien mises en avant, comme notamment la part des enfants. Des déductions quand on a des enfants qui restent, qui est doublée. Et donc ça, cette mesure-là, par exemple, elle va être bien mise en avant. Et puis, les républicains disent que si les très riches gagnent plus à cette réforme que les classes moyennes, en pourcentage de leur richesse, ça fait moins. Vous savez, une sorte de jeu comme ça qui leur permet de prouver que les classes moyennes, finalement, ont plus à gagner que les très pauvres, que les très riches, en pourcentage de leurs revenus, mais pas évidemment en termes bruts.
Bon, il va falloir le prouver. Alors, distorsion de concurrence ou pas avec l'Europe? Tiens, l'impact pour nous, pour les Européens, l'impact pour les entreprises françaises, pour les entreprises européennes. Benoît Grossman, est-ce qu'on en a une idée? D'ores et déjà, vous êtes à la tête du fonds d'investissement Idinvest. Hein.
Forcément un petit peu déjà, en faisant un peu du dumping fiscal avec un taux d'impôt société de 21% qui est sensiblement inférieur à la moyenne de l'OCDE qui doit être de 25-28%. Je suis pas économiste, je suis pas spécialiste. Donc avoir un dumping fiscal comme ça, ça donne un avantage compétitif américain évident et donc un désavantage compétitif évident pour les sociétés européennes. Oui, c'est pas une bonne nouvelle c'est pas une bonne nouvelle pour l'économie européenne, c'est clair. Et je pense qu'il y a certainement d'autres effets cachés qui donneront des effets un petit peu négatifs sur l'économie européenne. Donc oui, je crains un peu, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous.
Distorsion de concurrence, ouais. Guerre fiscale,
distorsion de concurrence, c'est jamais très bon, tout ça n'est jamais très bon, même si on a une économie globale où on est de plus en plus à la course au talent, qu'il faut acheter cher. Quand on n'a pas les mêmes bases fiscales, on se bat. Il y en a un qui marche avec un poids de 10 kilos au bout des pieds, puis l'autre non. Donc, faut être meilleur que les autres. Donc, c'est plus difficile. Donc, c'est pas une bonne nouvelle. Quand on voit qu'en France, on va péniblement ramener l'impôt société, je crois, de 33% à 25%, on se donne 5 ans pour le faire.
Oui,
de 33 à 30, de 30 à 28, etc. Pour arriver à la fin du quinquennat à 25. Mais les Américains passent de 33 à 21%, entre aujourd'hui et demain. Donc, c'est un peu plus rapide. C'est vrai que leur économie peut l'absorber. Les finances françaises ne peuvent pas l'absorber. Je crois que si elle pouvait l'absorber, elle le ferait, mais elle ne peut pas l'absorber du jour au lendemain. Ils sont un peu empêtrés dans la fameuse taxe sur les dividendes qu'ils doivent rembourser. Donc,
c'est Pierre Gattaz qui disait regarder avec beaucoup d'inquiétude la réforme fiscale de Trump. C'était la semaine dernière. Bruno Le Maire, lui, il y a 2 semaines, s'inquiétait des conséquences pour l'Europe de cette réforme fiscale. Il jugeait nécessaire une discussion franche et sérieuse avec les États-Unis. Oui, ils ont des raisons de s'inquiéter. Emmanuel Macron.
Ils en ont moins qu'il y a quelques semaines, parce qu'il y a quand même un point qui était en suspens dans cette réforme fiscale et qui finalement a été abandonné, c'est la fameuse taxation des importations et des biens fabriqués en dehors des États-Unis. Mmh. Et ça, c'était quand même un élément majeur. Hein. Il y a un moment, il était question de mettre une taxe de 20% sur les produits importés. Or là, on voit bien que finalement, Trump s'est rendu à l'avis du business. Et finalement, on a eu l'impression qu'à un moment, il allait aller contre l'intérêt peut-être des grandes multinationales américaines. Hein, on pense notamment à l'industrie automobile. On sait qu'aujourd'hui, les chaînes de production sont internationales et tellement croisées que ça devient très compliqué. Hein. Quand vous avez 40% d'un produit made in America qui en fait est fait avec des composants qui viennent de l'étranger, quand vous avez dans une voiture américaine des composants qui ont franchi entre 6 et 8 fois la frontière entre les États-Unis et le Canada, les États-Unis et le Mexique, on voit bien que tout ça n'était pas raisonnable. Donc il est revenu quand même à une certaine forme de pragmatisme, et ça, ce qui aurait été quand même très compliqué pour les industriels européens, finalement, il a refusé de déclencher cette guerre-là.
Cette guerre. Laurence Dardon-Liffry, et juste après, donc, Sébastien Turban, Zero Access Code.
Très rapidement, effectivement, il a reculé sur ses propositions de protectionnisme, et c'est étonnant parce que Trump, justement, a cette vision de son pays et des relations internationales qui est extrêmement égoïste, extrêmement nationaliste en réalité, et sur les questions commerciales, il l'a dit depuis le début, c'est un point sur lequel il n'a pas changé de discours. Le libre-échange, c'était bien pour les États-Unis tant que c'était dans l'intérêt des États-Unis, en gros, les 30 glorieuses, et puis depuis une dizaine d'années que c'est moins clairement un avantage pour les États-Unis, en tout cas pour les classes moyennes américaines, il a un discours extrêmement critique du libre-échange, extrêmement protectionniste. Et on l'a vu quand il a été en Chine en novembre, où il a tenu un discours à Xi Jinping pendant un discours public contre le libre-échange. Et c'était le Chinois qui répondait en disant que non, lui, il était pour le libre-échange.
Mais là où il prend un risque.
Un retournement de situation historique, en réalité.
Là où il prend un risque par rapport à sa base électorale que vous avez décrit très bien sociologiquement, c'est que dans les arguments sur le retour des créations d'emplois aux États-Unis, l'argument protectionniste était beaucoup plus mis en avant que le simple argument des baisses d'impôts, hein, puisque les baisses d'impôts, c'est un argument plutôt en faveur du pouvoir d'achat, c'est pas un argument en tant que tel qui était censé créer des emplois. Là, il renonce quand même à ce qui était considéré comme étant sa principale arme pour défendre l'industrie et l'emploi aux États-Unis.
Sébastien Turban, CEO Access Code.
Alors oui, d'abord je voulais répondre sur le déficit, sur le protectionnisme en fait. C'est vrai que cette réforme là déjà, il y a une chose qui est très bizarre, c'est que cette relance de l'investissement intérieur, cette réforme va normalement en théorie devrait creuser le déficit commercial, ce qui est un des gros problèmes de Donald Trump et donc qui son problème est censé se renforcer avec cette réforme. Donc il y a des choses qu'il va enfin quand il va voir le déficit se creuser, si le déficit se creuse et s'il n'y a pas de mesure de compensation, il va avoir ce problème-là d'affichage en tout cas. Sur la concurrence fiscale, alors sur les taux, donc les États-Unis affichaient le taux le plus élevé d'imposition sur les sociétés au niveau de l'OCDE.
Il y a longtemps. Ouais.
Mais le problème, c'est que quand avec l'ensemble des niches et le fait que la taxation était sur les profits mondiaux, mais uniquement si vous les rapatriez, il y avait un certain nombre de choses qui faisaient que en fait, en effectif, le taux effectif sur les entreprises est à peu près à la moyenne de l'OCDE. Et là, la réforme fiscale, elle baisse effectivement le taux nominal d'IS de 35% à 21%, mais elle réduit aussi, elle supprime un certain nombre de niches. Et donc le taux effectif que les entreprises américaines vont payer va pas diminuer d'autant de ce montant.
Voilà, d'accord.
Et ensuite sur plus généralement sur les inquiétudes qu'on peut avoir en Europe sur la réforme fiscale, c'est ce dont je parlais tout à l'heure sur les mesures qui sont prises justement pour essayer de réduire la possibilité des entreprises américaines de déplacer leurs profits à l'étranger. Parce que la réforme fiscale fait que il y a cette incitation là qui est faite, étant donné que les profits à l'étranger ne sont plus taxés. Et donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Il y a en particulier une mesure qui a été discutée d'ailleurs dans la lettre qui a été envoyée par le ministère des Finances, par les ministres des Finances européens, pour dire on a peur de ces mesures-là. Il y a notamment une taxation moindre de certaines exportations de produits intangibles et une taxation forfaitaire sur certains produits intangibles importés qui inquiète et qui inquiète notamment les ministres des Finances européens et qui est un peu lié d'ailleurs à la taxation initialement qu'on pensait sur la taxation des importations.
Et les États-Unis pourraient à leur façon déclencher une guerre des taux en Europe. La France, elle va passer à 25% en 2022, très bien, les Allemands toujours à 30%. Est-ce que, par exemple, le gouvernement à Berlin va être un peu sous la pression de ces milieux économiques, Emmanuel ?
Oui, mais de toute façon, la tendance de fond sur la fiscalité, c'est une baisse de la taxation sur les agents économiques les plus mobiles et une taxation qui se reporte sur les agents économiques les moins mobiles. Quand vous regardez ce que représente l'impôt sur les sociétés aux États-Unis dans l'ensemble des recettes fiscales, ça a été divisé par 3 ou par 4 depuis 60 ans. Et ça, c'est une tendance que vous retrouvez partout. Malheureusement, les moins mobiles sont les favoris des taxeurs. Et les bases les moins mobiles, comme les entreprises, seront de moins en moins taxées, de toute façon, quoi qu'il arrive.
Un mot chacun, est-ce que cette réforme fiscale de Trump, c'est un choc mondial?
Non, c'est la pire réforme, c'est une
catastrophe.
On est
tous concernés ou pas?
Non, oui. Mais c'est... Oui, alors, pas moins que ce qu'on aurait pu croire par rapport à la réforme initiale. En revanche, son impact sur l'économie, c'est tout ce qu'il faut pas à l'économie américaine. C'est une réforme qui redonne de l'argent à ceux qui en avaient déjà, y compris les entreprises, qui n'avaient pas besoin d'argent pour moderniser leur outil de production, alors que les États-Unis ont surtout besoin d'une modernisation de leurs infrastructures et donc ont surtout besoin d'investissements publics. C'est une réforme qui ne réduit pas les inégalités, alors que ce qui va pénaliser l'économie américaine, c'est le creusement des inégalités et la montée de la pauvreté. Donc c'est une mesure qui ne résout aucun des problèmes de l'économie américaine aujourd'hui.
Un mot, Sébastien Turban, pour conclure.
Un mot, c'est que je m'inquiéterai pas forcément de cette réforme qui va pas avoir normalement un impact énorme sur les économies européennes. Effectivement, je partage tout à fait le constat que c'est pas la réforme nécessaire actuellement aux États-Unis.
Laurence Dardon et Benoît Grossman.
Et en plus, elle remet en selle Trump vis-à-vis de son électorat, aussi bien populiste que conservateur. Et on n'a pas assez parlé des infrastructures, qui est effectivement un gros problème.
Ouais. On y reviendra, Laurent Dardon, bien sûr.
Mais ça aurait nécessité de l'investissement public.
Pour moi, c'est une réforme purement idéologique, comme seul Trump sait le faire. Donc c'est juste conforme à son personnage.
Merci à tous. Merci à Grégory Volokhin qui nous a accompagnés en première partie. Donc le président de Mescartz Financial Services depuis New York. Laurence Dardon est également avec nous ici à Paris. Elle dirige le centre États-Unis de l'IFRI. Merci à Sébastien Turban, économiste chez CEO Rexecor. Emmanuel Lechip de BFM Business et puis Benoît Grossman à la tête du fonds d'investissement Ininvest. C'est fini pour les décodeurs de l'écho, on revient évidemment très vite.
Bien. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
AI may be the most important new computer technology ever, but AI needs a lot of processing speed, and that gets expensive fast. Upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. Do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic. Take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.